Bonjour et bienvenue dans Santé et Bioéthique Tous Concernés, une série de podcasts proposée par Lefebvre Dalloz. Explorons ensemble ces thèmes d'actualité qui allient science, droit, éthique et qui nous interrogent. Aujourd'hui, c'est la question des violences gynécologiques et obstétricales qui nous intéresse. Je suis Oriane Merger, rédactrice en chef du dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologie. Nous recevons Anne Simon, professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université d'Artois, et Elsa Supiot, professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université d'Angers. Bonjour Anne, bonjour Elsa.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé une étude juridique sur les violences gynécologiques et obstétricales. C'est un sujet longtemps resté tabou. Depuis quelques années, ces violences gynécologiques et obstétricales sont dénoncées à travers des scandales médiatiques et par de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux. On pense au blog Marie Accouche-là, tenu par une juriste Marie-Hélène Lahaye, et on peut aussi citer le lancement sur Twitter de l'hashtag Paye ton utérus. En 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes rend pour la première fois un rapport sur cette question, en répertoriant différents actes pouvant être considérés comme des violences gynécologiques et obstétricales. Dans la foulée, l'Académie de médecine rend un rapport intitulé « De la bientraitance en obstétrique, la réalité du fonctionnement des maternités ». Le Conseil de l'Europe s'est également saisi de la question, le Comité consultatif national d'éthique également, avec un avis sur le consentement et le respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l'intimité. La prise en compte de ces violences par le droit est encore à ses débuts. Des projets et propositions de loi sur le sujet ont été enregistrés en 2023 et nous assistons à un contentieux naissant. Le droit est alors un instrument de sanction. Ce podcast se limitera à cet aspect, mais il ne faut pas oublier que le droit se veut d'abord un outil de prévention de ces violences gynécologiques et obstétricales, comme le montre également votre rapport que nous vous invitons à lire. Alors, qu'entend-on par violences gynécologiques et obstétricales, Elsa ?
Je vous remercie pour cette question qui est aussi importante que délicate. En France, vous l'avez rappelé, les violences gynécologiques et obstétricales sont d'abord nées d'un mouvement qui a été relayé par les médias et qu'un mouvement qui est monté par les patientes, essentiellement. Vous avez évoqué différents rapports qui ont pu être rendus sur la question et qui proposent des définitions, soit des violences gynécologiques et obstétricales à proprement parler, soit des violences subies par les femmes sous le prisme, par exemple, des actes sexistes, comme ça a été le cas pour le Haut Comité à l'égalité hommes-femmes. Il faut quand même noter qu'à l'étranger, les violences gynécologiques et obstétricales ont pu recevoir des définitions légales. Je pense par exemple au Venezuela, où une loi en 2007 a pu les définir, je cite, comme « l'appropriation du corps et des processus reproductifs des femmes par le personnel de santé, qui se manifeste par un traitement déshumanisant, un abus de médicalisation et une pathologisation de processus naturels, entraînant une perte d'autonomie et de capacité de décision libre sur son corps et sa sexualité, lesquels affectent négativement la qualité de vie des femmes ». Dans notre rapport, nous avons eu une démarche progressive que Anne va pouvoir nous expliquer.
La prise de conscience que nous avons eue au début de cette recherche, c'est que les actes dénoncés par les femmes au titre des violences gynécologiques et obstétricales recouvraient un ensemble d'actes très hétérogènes, des propos désobligeants aux atteintes à l'intégrité physique de la personne les plus graves. Et c'est face à cette grande diversité que s'est posée la question de la qualification juridique adéquate. Notre point de départ était donc celui d'aborder ces actes de violence tels qu'ils étaient dénoncés dans leur hétérogénéité et de leur restituer leur exacte qualification juridique. Au sein de ces actes dénoncés, nous avons identifié un certain nombre de comportements ou d'actes susceptibles d'être appréhendés par le droit, par une qualification juridique. Et au sein de ces actes susceptibles d'être qualifiés juridiquement, nous avons cherché à identifier ceux qui pouvaient relever de la qualification juridique de violence. Donc c'est par ce cheminement intellectuel progressif que nous avons cerné notre objet.
Ces violences ne visent pas seulement l'accouchement, c'est beaucoup plus vaste, ne visent-elles que les femmes ?
Effectivement, le champ de notre recherche a été beaucoup plus vaste que le seul accouchement, même si de nombreux exemples sont tirés du suivi de la grossesse et de l'accouchement. D'abord, il concerne l'ensemble du suivi gynécologique, mais il ne concerne pas que les femmes en âge de procréer. Nous avons aussi inclus dans la recherche une réflexion sur les femmes âgées, donc qui sont ménopausées et n'ont plus la question de la procréation, mais aussi sur les petites filles qui peuvent avoir des questions touchant à la gynécologie ou en tout cas touchant à leur intimité sexuelle. On pense aussi à la question des enfants intersexes, par exemple. Et puis, il y a évidemment la question qui a pu être amenée d'ailleurs dans les débats sociaux sur la discrimination dont pouvaient être victimes les personnes transsexuelles qui sont hommes à l'état civil, mais qui ont un suivi gynécologique lequel peut être semé d'embûches. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans ces victimes de violences gynécologiques et obstétricales, même si ce sont en premier lieu les femmes qui vont être touchées, leur entourage peut lui aussi être concerné, qu'il s'agisse du conjoint ou du compagnon ou de la compagne, mais aussi des enfants qui peuvent, par le même acte, subir eux-mêmes un préjudice.
Anne, pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ces violences gynécologiques et obstétricales ?
Oui, tout à fait. Alors, d'une manière assez schématique, on peut considérer qu'il existe deux catégories d'actes qui s'inscrivent dans ce champ des violences gynécologiques et obstétricales. Ceux qui sont animés d'une intention violente de la part du professionnel de santé et face auxquels on a plutôt des procédures de sanction. On y reviendra quand on dira un mot des procédures tout à l'heure. Mais ce sont des situations dans lesquelles le contexte de soins apparaît davantage comme le lieu de la commission d'une infraction pénale, mais qui ressemble à des infractions plus classiques. On pense à des plaintes pour viol contre certains praticiens en santé qui ont été déposés, qui ont abouti, des agressions sexuelles, des coups portés. On a un exemple d'un sage-femme qui a porté des coups avec une sonde d'échographie sur le ventre d'une patiente, par exemple. Ça peut être des insultes, des propos extrêmement désobligeants sur le physique d'une patiente, par exemple, ou des hypothèses de harcèlement. Ça, c'est pour la catégorie plus intentionnelle.
Mais il y a aussi des hypothèses qui ne sont pas intentionnelles, où le praticien n'aura pas l'intention d'avoir un acte violent vis-à-vis de la patiente et qui pourtant sont dénoncées comme des violences parce qu'elles sont ressenties par les femmes comme des violences. Dans cette catégorie, on peut citer par exemple le fait que la volonté de la patiente ne soit pas écoutée sur une position d'accouchement, sur la douleur aussi qu'elle peut exprimer face à un examen, et notamment un examen gynécologique. Il peut y avoir aussi des hypothèses qui ont été d'ailleurs très largement relayées par la presse sur les touchés vaginaux ou rectaux non consentis, donc qui sont imposés à la femme soit endormie, comme ça avait été le cas qui avait été dénoncé très largement, soit qui n'est pas endormie, mais à qui on ne demande pas son consentement. Il peut y avoir aussi un recours inadapté à certaines manœuvres qui peuvent s'avérer dangereuses, comme l'expression abdominale, par exemple. Et enfin, des remarques désobligeantes sur les pratiques sexuelles ou sur le choix ou non de recourir à une interruption volontaire de grossesse quand il y a des interrogations sur la viabilité et la santé du fœtus.
Et quand on parle de violence, on pense tout de suite au droit pénal. Est-ce que vraiment les violences obstétricales et gynécologiques relèvent du droit pénal, Anne ?
Bien sûr, certaines de ces violences relèvent du champ du droit pénal, pas toutes, parce que comme on l'a dit en ouverture de cette discussion, on aborde dans le cadre du rapport un grand nombre d'actes et pas seulement ceux qui sont susceptibles d'être qualifiés pénalement, mais le droit pénal qui s'organise autour de la protection de la personne et de l'intégrité de la personne en particulier est un instrument pertinent. J'évoquais des hypothèses de viol ou d'agression sexuelle commises dans un contexte de soins, on pense aux violences, mais ce qui va être intéressant dans le champ de notre recherche, c'est d'interroger ces qualifications pénales pour appréhender des pratiques qui sont plus quotidiennes, plus répandues. On a évoqué la question des touchés vaginaux non consentis ou non justifiés médicalement et s'est posé d'ailleurs dans des affaires assez récentes la question de la qualification du viol. Alors on a étudié de manière approfondie dans le cadre de la recherche ces qualifications pénales pour voir si elles étaient susceptibles de s'appliquer à ces contentieux en proposant une analyse de l'élément matériel, bien sûr, puisque le viol c'est tout acte de pénétration sexuelle, donc on sait qu'un toucher vaginal ou un toucher rectal c'est susceptible d'être qualifié d'acte de pénétration. Néanmoins, en analysant de manière plus fine l'élément intentionnel et notamment l'exigence d'être porté par une intention elle-même de nature sexuelle, on a pu exclure cette qualification dans des cas qui se rapprochent de situations où on n'a pas de justification médicale. Donc oui, on a exploré ces qualifications pénales pour en saisir les limites et comprendre la manière dont elles pouvaient saisir les violences gynécologiques et obstétricales telles qu'elles sont dénoncées.
Et si la voie pénale n'est pas adaptée, quelle autre procédure juridictionnelle peut être proposée aux victimes de violences gynécologiques et obstétricales ? Elsa ?
Il en existe plusieurs. Il existe schématiquement trois voies. Tout d'abord, il y a les juridictions de l'ordre administratif qui vont pouvoir être saisies des contentieux qui opposent un patient, un usager du service de santé à une institution publique, donc l'hôpital public en particulier. Il va y avoir aussi les procédures judiciaires, donc devant le juge civil, qui vont permettre d'agir contre un professionnel de santé qui est intervenu à titre libéral, donc votre gynécologue de ville, par exemple, ou votre sage-femme de ville. Et puis, il y a aussi la procédure devant les ordres professionnels, puisque, qu'il s'agisse des médecins ou des sages-femmes, ils ont une affiliation obligatoire à un ordre, lequel a un pouvoir de sanction vis-à-vis de ces professionnels de santé. Le choix de recourir à l'une ou l'autre de ces procédures va dépendre en partie des circonstances, puisque, comme je viens de le dire, l'ordre administratif, il va falloir un rapport avec une institution publique, alors que pour le judiciaire, ce ne sera pas le cas, mais aussi de ce que la victime cherche à obtenir. Par exemple, si le souhait de la victime est d'obtenir une indemnisation, des dommages et intérêts pour son préjudice, eh bien, il faudra qu'elle engage une procédure devant la juridiction, les juridictions administrative ou judiciaire, alors que si ce qu'elle cherche, c'est presque exclusivement une sanction du professionnel, elle pourra peut-être aller uniquement devant l'ordre, ou si la situation lui a semblé problématique, mais qu'elle n'en a pas, elle, subi un dommage. Là encore, l'ordre pourra éventuellement sanctionner dès lors qu'il y a une faute professionnelle, quand bien même il n'y aurait pas de préjudice quantifiable pour la victime.
J'en profite pour ajouter que l'existence de ces procédures qui coexistent et qui ont des logiques propres n'exclut pas que ces procédures soient cumulées, puisqu'en effet, un même acte peut donner lieu à plusieurs qualifications juridiques et à plusieurs procédures. Il peut y avoir une procédure devant l'ordre professionnel, devant les juridictions ordinales, et en même temps, une procédure devant les juridictions étatiques.
On comprend donc qu'il y a une pluralité de procédures qui correspond à une pluralité de situations rencontrées, car un même acte peut donner lieu à plusieurs procédures. Les victimes peuvent aussi souhaiter se tourner vers des voies non juridictionnelles. On pense à la médiation, par exemple. Pouvez-vous nous en dire plus ?
De fait, les victimes peuvent et même vont le plus souvent se tourner vers une voie non juridictionnelle. Et la médiation dont vous parliez absorbe près de 80% des affaires, des situations, en tout cas des retours que nous avons pu avoir du terrain. C'est donc une pratique très courante en matière médicale qui consiste à réunir le professionnel de santé ou son chef de service, le cas échéant, ou les deux, la personne victime qui peut être assistée ou non, un médiateur et, le cas échéant aussi, un représentant des patients. L'objectif étant de réinstaurer un dialogue entre les différentes parties et de trouver une solution amiable aux différents, laquelle pourra résulter d'une information complétée pour la patiente qui cherche à comprendre ce qui s'est passé pour elle. Potentiellement, le professionnel de santé pourra présenter des excuses, mais il peut y avoir aussi une négociation sur un terrain indemnitaire. Il faut aussi avoir à l'esprit que cette étape de conciliation peut parfois être obligatoire. C'est le cas en matière ordinale quand la patiente a déposé une plainte devant l'ordre contre un professionnel agissant à titre libéral, plainte qu'elle souhaite poursuivre et qui n'est pas forcément reprise à son compte par l'ordre professionnel. Dans ces cas-là, il devra y avoir l'organisation d'une conciliation.
Mais la médiation, dans le cas des violences gynécologiques et obstétricales, est-elle conforme à la Convention d'Istanbul, laquelle interdit les modes alternatifs de résolution des conflits dans les affaires de violence à l'égard des femmes ? Qu'en pensez-vous, Anne ?
Oui, c'est une question intéressante parce qu'en fait, la Convention d'Istanbul, elle interdit la médiation s'agissant des violences qu'elle définit elle-même dans les dispositions de la Convention et qu'elle vise à prévenir, c'est-à-dire les violences faites aux femmes, mais telles qu'elle les définit. C'est-à-dire, au sein de la Convention, les violences qui sont volontaires. Si on lit les travaux préparatoires ainsi que les dispositions précises de la Convention d'Istanbul, on comprend que cette Convention, elle est destinée à la prévention et à la répression des violences volontaires, c'est-à-dire animées d'une intention de nuire, que ce soit des violences physiques ou des violences psychologiques. Et par rapport à ce qu'on disait initialement, tout ce qui relève de l'écart aux bonnes pratiques et de comportements qui ne seraient pas animés d'une intention de nuire, on peut considérer que dans ces hypothèses, le recours à la médiation resterait possible.
La victime peut espérer une indemnisation et quels sont les préjudices indemnisables ?
Il faut savoir qu'en droit français, le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices. Pour arriver à ce résultat, les juristes ont développé de nombreux chefs de préjudices. On retrouve à peu près, en réalité, en matière de violences gynécologiques et obstétricales, toutes les catégories de préjudices qui sont connues en matière de dommages corporels. s'agissant par exemple de l'indemnisation des frais liés aux dommages, si vous avez eu des frais médicaux notamment, ou une diminution de vos revenus, mais aussi la souffrance subie, ce qu'on appelle le pretium doloris. Vous pouvez éventuellement avoir un préjudice sexuel, c'est assez fréquent sur les violences gynécologiques et obstétricales, enfin fréquent, c'est relatif, mais il y a beaucoup de témoignages sur les séquelles subies sur la vie sexuelle des patientes. On peut aussi avoir éventuellement le déficit fonctionnel et on s'interroge dans le rapport sur, par exemple, la possibilité d'une indemnisation quant au préjudice d'angoisse de mort imminente. Mais je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, ils sont très nombreux et il est tout à fait essentiel de les recenser de manière très précise puisque c'est par leur cumul qu'on obtient une indemnisation complète du préjudice subi.
Et comment prouver ces violences gynécologiques et obstétricales ?
Alors la question de la preuve des violences gynécologiques et obstétricales, c'est vraiment une question importante et centrale dans le cadre du rapport et à titre liminaire. Ce qui interroge les professionnels, c'est sur qui pèse la charge de la preuve. Le principe en droit français, c'est que celui qui demande doit prouver. C'est au demandeur d'apporter la preuve et non, notamment de son préjudice. Mais il y a une particularité en matière médicale qui est liée à l'obligation d'information où là, on a une charge de la preuve qui s'inverse et c'est au professionnel de prouver qu'il a bien délivré l'information qui était attendue de lui. S'agissant sinon, d'une manière plus générale, de la preuve de ces violences, ce sont des faits juridiques et les faits juridiques peuvent se prouver par tout moyen. On attire d'ailleurs l'attention dans le rapport sur le fait qu'une preuve écrite, un consentement écrit par exemple, n'aurait pas de valeur particulière. Une des spécificités en matière médicale étant que le consentement peut être retiré à tout moment, notamment de l'examen clinique. Sinon, les moyens d'apporter la preuve sont divers. On pense au dossier médical dont l'accès mériterait sans doute d'être renforcé, aux témoignages qui peuvent être apportés dans l'affaire, à diverses attestations médicales qui pourraient être sollicitées. On pense aussi bien sûr à la place de l'expertise qui est tout à fait particulière en matière de violences gynécologiques et obstétricales.
Et oui, justement, à propos de l'expertise, elle peut constituer une nouvelle épreuve pour la victime. Comment y remédier, Elsa ?
L'expertise est un élément de preuve extrêmement important et particulièrement utile au juge. Le juge est un professionnel du droit, ce n'est pas un spécialiste de la médecine. Et donc, il peut avoir besoin de l'assistance d'un expert médecin, pour quantifier le dommage et pour éventuellement identifier les manquements à l'origine de ce dommage. Donc l'expertise est une étape importante qui pourra être diligentée à l'initiative du juge ou éventuellement à la demande d'une des parties. Il peut y avoir d'ailleurs des expertises réalisées exclusivement à la demande des parties, des expertises privées. La difficulté, souvent, c'est que la patiente va arriver sans s'être préparée. Or, dans le cadre de l'expertise, en matière médicale, souvent, l'objet de l'expertise, c'est son corps. Et ce qui va être mis en question, c'est la souffrance qu'elle a subie. Donc, toute sa parole, tout son vécu vont être réinterrogés, mis en question, mis en doute, ce qui est très difficile à vivre. Ça l'est d'autant plus qu'il est courant que la victime se retrouve seule avec le médecin expert, éventuellement le médecin mis en cause ou le médecin de l'assureur. Donc on a des professionnels de santé qui peuvent se connaître. Donc on a eu des retours par exemple où le médecin expert arrive pour l'expertise et fait la bise au médecin qui était mis en cause parce qu'il s'avère que c'était son enseignant à l'époque. Et évidemment, tout ça soulève des difficultés. Mais même indépendamment de ces situations de conflit d'intérêts notable, la victime doit avoir été préparée au fait qu'on remette systématiquement en cause sa question. Et idéalement, elle sera accompagnée soit par son avocat, et il y a des avocats qui refusent de participer à l'expertise, soit par un professionnel de santé de son choix, idéalement plutôt un médecin spécialisé en gynécologie et en obstétrique, ou en fonction des préjudices qui sont invoqués, si ce sont des préjudices psychologiques, eh bien un psychologue ou un psychiatre. Cette possibilité d'être accompagnée déjà permettrait d'apaiser certaines difficultés liées à l'organisation actuelle de l'expertise, mais vous savez sans doute qu'il y a de toute façon en cours une réflexion pour transformer la réalisation de l'expertise. Un autre moyen de l'améliorer, c'est aussi d'essayer d'augmenter le vivier, j'allais dire, d'experts, puisque c'est une vraie difficulté pour les juges de pouvoir nommer un expert compétent spécialisé sur le domaine. Et quand on a un préjudice psychologique, nommer un gynécologue obstétricien ne sera pas forcément le choix le plus adapté, mais il n'y a pas toujours d'autres possibilités.
Quelles sont les retombées de ce mouvement de dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales? Conduit-il à une introspection partagée entre les femmes et les praticiens?
C'est quelque chose qu'on a identifié dans le cadre de cette recherche, et ce qui nous semble intéressant, c'est vraiment ce double mouvement. À la fois, cette recherche, quand on la présente, on le perçoit rapidement, elle permet à de nombreuses femmes de prendre conscience des droits qui sont les leurs, et elle leur permet aussi de revisiter la manière dont elles ont vécu leur suivi gynécologique, obstétrical, la naissance de leurs enfants, et de s'interroger sur la manière dont elles ont traversé les choses, la manière dont ces connaissances peuvent leur servir à l'avenir aussi, et quelles peuvent être légitimement leurs attentes dans le cadre de ces suivis gynécologiques et obstétricales. Donc ça, c'est pour le côté des femmes. Il y a cette idée que le savoir est aussi une part de pouvoir et que les femmes peuvent se saisir de ce savoir, y compris sur le droit, pour vivre autrement ce suivi médical.
Et vous, Elsa, quel est votre avis ?
Alors, je partage totalement l'avis qui vient d'être formulé par Anne, qui peut être complété par un autre mouvement du côté, cette fois-ci, des professionnels de santé. Beaucoup ont été très choqués dans un premier temps du vocabulaire utilisé. Le terme de violence a été mal reçu par ces professions dont l'ambition est quand même de se mettre au service de la santé des autres et qui venaient se voir qualifiés d'être violents. Donc ça a été très très difficile dans un premier temps. Mais au bout du bout, ça a entraîné quand même une réflexion critique sur les pratiques en cours, une remise en cause des pratiques en cours qui va, je pense, dans le sens d'une amélioration, c'est-à-dire qu'on voit cette réflexion critique émerger notamment auprès des instances professionnelles, des syndicats professionnels, qui rappellent l'importance de l'information, l'importance d'être à l'écoute de ce que disent les femmes. Et donc on peut espérer que ce mouvement de dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales va finalement faciliter la rencontre et le dialogue entre les femmes, les patientes d'une part, et les professionnels de santé, ce qui sera pour l'épanouissement de tous.
Merci Anne, merci Elsa pour votre éclairage sur cette question si sensible des violences gynécologiques et obstétricales.
Merci Oriane pour cette invitation.
Merci beaucoup de nous avoir invités à parler de cette recherche.
Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt.